des informations, Mimi Ngumba Mulongo. Huit personnes périssent dans un accident de navigation sur la rivière Chuapa. Le naufrage a eu lieu près de Boindé dans la province de l'Équateur. Cinq prisonniers libérés à Lodja dans la province du Kasaï oriental. Opération initiée par le ministre de la Défense lors d'une visite dans ce territoire. La journée mondiale de lutte contre les mines antipersonnelles, c'est aujourd'hui. Ces engins ont déjà fait près de 2000 victimes au Congo et notamment au Sud Kivu. Dans ce journal, nous irons à Kalemie et à Bukavu pour en parler. Mesdames et messieurs, bonjour et ouvrons tout de suite ce journal à Mbandaka avec le naufrage d'un bateau dans la rivière Chuapa, près de Boindé, c'est dans la province de l'Équateur. Bilan provisoire, 8 morts et 4 disparus. Ce bateau qui revenait d'Ikela transportait à son bord une centaine de passagers et des produits agricoles. À l'origine de cet accident, la surcharge. Les survivants sont regroupés dans les installations de l'ONATRA à Boindé, où ils vivent dans des conditions difficiles. Des précisions avec Henri Lobondo Bokelou.
Un Benita, c'est le nom de ce bateau qui a coulé dans la rivière Chuapa à Balingo Konda, localité située à plus ou moins 68 km en amont de Boindé. Selon le commissaire de district de la Chuapa, jusqu'à présent, le nombre des morts n'est pas encore connu, faute de manifeste. Mais le premier bilan fait état de 8 morts dont les corps sont repêchés. 4 personnes parmi lesquelles le gérant du bateau et son épouse sont portées disparues. Le pousseur et ses 3 barges ont coulé à pic. À l'origine de cet accident de navigation, la surcharge. Cette unité fluviale en provenance d'Ikela, où le moyen de transport s'oppose avec acuité, transportait des produits agricoles. À en croire le commissaire de district Willy Issekoussou, il avait embarqué à son bord une centaine de passagers pour Kinshasa. Une équipe d'enquêteurs composée notamment du commissaire fluvial, de la DGM, de l'ANER et d'un agent du parquet a été dépêchée sur le lieu de l'accident. Entre-temps, les rescapés se trouvent déjà à Boindé où ils sont regroupés dans les installations de l'ONATRA. Aucune assistance humanitaire jusque-là pour ces hommes et femmes qui ont tout perdu et qui vivent difficilement. Henri Lobondo Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Mort d'homme encore, mais cette fois-ci à Goma, dans la province du Nord Kivu, un incendie a fait 2 morts la nuit dernière dans le quartier Mabanga Sud. Les victimes, 2 jeunes gens, ont été surpris par le feu alors qu'ils dormaient, d'après leurs proches. C'est le 4e incendie déclaré en l'espace de 10 jours dans la ville de Goma. Gisèle Cage pour les détails.
C'est aux environs des minuit que l'incendie s'est déclaré, d'après des témoins. Ces derniers déclarent avoir été réveillés par les cris des victimes qui demandaient du secours. Pendant ces temps, le feu avait déjà embrasé leur chambre. Une des victimes était parvenue à sortir des flammes grâce au secours des voisins qui sont parvenus à défoncer la porte de la chambre. Selon les mêmes témoins, c'est en essayant de sauver son ami bloqué à l'intérieur de la chambre que l'une des victimes sera également prise par le feu. Il s'agit donc de 2 jeunes garçons âgés tous d'au moins 30 ans qui sont morts dans cet incendie. Personne des témoins n'arrive à expliquer les causes de cet incendie. Tout ce que racontent des témoins, c'est que le feu est parti de la chambre où dormaient les 2 victimes. C'est le 4e incendie déclaré en l'espace de 10 jours dans les quartiers les plus populaires de la ville de Goma. Et souvent, ce sont des maisons en planches qui sont les plus exposées. La ville de Goma, aucun camion anti-incendie n'est disponible. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
Notez aussi que le seul camion anti-incendie qui avait été mis à la disposition de la mairie n'a jamais fonctionné car toutes les tentatives pour le réparer n'ont jamais abouti selon les autorités. Une première à Mahagi, chef-lieu du territoire du même nom, situé à 200 km au nord-est de Bunia. Nous sommes en Ituri. Le tribunal militaire garnison de l'Ituri, déplacé en chambre foraine, prononce ses premiers verdicts. Des policiers et des militaires FRDC, coupables de plusieurs chefs d'accusation, ont été condamnés à la peine de mort et à quelques années de prison ferme. Le point avec André Kambala.
8 prévenus sur 9 ont connu leur sort à l'issue des verdicts prononcés par la chambre foraine du tribunal militaire de l'Ituri à Mahagi. Tous ces prévenus se recrutent parmi les militaires et les policiers. Selon Jachin Oumegi, directeur de la radio Colombe de Mahagi, le premier verdict a concerné 2 policiers et 1 militaire. Tous accusés d'homicide, coups et blessures et arrestations arbitraires. À l'issue du verdict, un policier condamné à mort pour avoir tué un homme à Nyarambe, une localité située à un peu plus de 20 km de Mahagi. Un autre policier subit 6 ans de prison ferme et le militaire, lui, en a pour 10 ans. Le second verdict concerne l'homicide et la mutilation d'un homme à Mahagi le 17 décembre. Ici, 2 militaires ont été condamnés à mort. Un policier cope 5 ans de prison ferme, Deux militaires sont acquittés faute de preuves. Le neuvième prévenu, un policier, attend son verdict dans un autre dossier. La population de Mahagui salue cette initiative. Elle croit déjà à la fin de la période de l'impunité, période au cours de laquelle, dit-elle, les policiers de l'intervention rapide se sont conduits à maître absolu. De Bounia, André Kambala, Radio Kapi.
Dans la province orientale, les violents ne s'accordent pas entre unités de la justice militaire et forces navales des forces armées de la RDC basées sur la traversée de la rivière Lobaye à 120 km au sud-est de Kisangani dans le territoire d'Opala. Ces deux unités se disputent le contrôle de ce poste juteux avec prétention d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Des précisions avec Aliana Alipanagama.
Selon l'auditorat militaire de Kisangani, ces éléments dépêchés sur la traversée de la rivière Lobaye au mois de décembre dernier ont reçu mission de sécuriser la population de toute tracasserie des hommes en uniforme incontrôlé. 3 mois après, une autre équipe de la force navale est arrivée sur le même lieu. Selon plusieurs témoignages en provenance de Lobaye, les éléments de la force navale tracassent la population. Ils fouillent, contrôlent les bagages et font même payer des taxes. Les deux unités des FRDC en présence ne se comprennent pas dans leurs attributions. Le conflit est ouvert et la tension monte. Devant cette situation confuse, la population craint les pires. La fréquence de la traversée sur cette rivière a diminué sensiblement. La 9e région militaire a dépêché une équipe pour faire partir de ce lieu ces deux unités de l'armée nationale, mais en vain. La mission a rencontré une forte résistance. Chaque unité de l'armée n'attend que l'ordre de son chef hiérarchique direct pour s'exécuter. Contactées à ce sujet, toutes les autorités militaires de ces différentes unités concernées se réservent de tout commentaire. Ce dossier a été discuté hier lundi au cours de la réunion des comités provinciaux de sécurité. Rien n'a filtré de cette réunion. Aliana Alipanagama, Radio Okapi, Kisangani.
Kapsuloja dans le Kasaï oriental, avec la libération dimanche de 5 prisonniers par le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, en visite privée dans ce territoire. Cette libération est intervenue quelques heures avant le dépôt de sa candidature et celle d'autres membres du RCD à la députation nationale dans le district de Sankuru. Des détails avec Billy Yvan Lutumba.
Cette libération a eu lieu au cours d'une visite privée du ministre actuel de la Défense nationale, M. Adolphe Onusumba, au cachot de l'éditorat militaire garnison de Lodja. Et c'est après une présentation succincte des dossiers et faits retenus à charge de ces détenus préventifs que le ministre de la Défense décidera sur le champ de la libération de ces pensionnaires du cachot de l'éditorat militaire. Parmi les détenus libérés figurent un policier et le directeur de la prison centrale de Lodja, arrêté la semaine dernière sur l'ordre de l'auditeur de garnison de Lodja au motif de complicité dans l'évasion des militaires condamnés. Cette libération de ces détenus s'est effectuée devant une foule nombreuse de personnes venues pour soutenir les candidatures des députés nationaux du RCD. Une presse nombreuse était également associée à l'événement, signalant que le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, s'est porté hier même candidat à la députation nationale dans le district de Sankuru. De son côté, l'éditeur militaire ad intérim, garnison de Lodja, n'a pas voulu s'exprimer sur les conditions de toutes ces libérations. Billy Ivan Lutumba, Lodja, Radio Okapi.
Contacté à ce sujet, des sources proches du ministre de la Défense nient avoir ordonné la libération du directeur de prison et affirment que les procédures judiciaires des autres libérations ont été respectées. Comparution hier après-midi de Dona Mbaya, président de Journalistes en danger, devant le premier avocat général de la République suite à une invitation lui adressée par le parquet général de la République pour le numéro 1 de Journalistes en danger, les pistes qui aideront à établir la vérité sur l'assassinat du journaliste Franck Guiquet et de son épouse existent. À la justice de faire son travail. On écoute Dona Mbaya à la sortie de cette audition au micro de Guy Roger Niampala.
J'ai posé la question expressément pour savoir s'il s'agissait d'une plainte. On m'a dit que non, ce n'est pas une plainte. Simplement, le parquet général de la République a voulu ouvrir un dossier parce que dans le rapport de GED, il y a des personnes justiciables devant la Cour suprême de justice qui ont été citées là-dedans. Mais nous sommes dans notre mission première. Je crois que lorsque nous avons rencontré le président Kabila le 9 mars avec Reporters sans frontières, il nous a promis toute sa protection. Nous laissons à la justice de continuer ce travail-là. Nous avons donné des pistes qu'il faut creuser, aller plus loin, peut-être aller jusqu'à la vérité. Nous sommes là pour voir avec elle où est-ce que nous allons aboutir. Est-ce que vous trouvez normal qu'un citoyen ordinaire puisse comparaître avec un ministre? Ailleurs, quand un ministre sent que son honneur a été bafoué, il démissionne.
Les engins non explosés et les mines antipersonnelles constituent encore une grande préoccupation au nord Katanga. C'est en ces termes que le chef du programme national d'action humanitaire de déminage, Adan Churchhead de Kalemi, s'est exprimé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les mines antipersonnelles. Le chef du programme, Apam Saidi, informe qu'après Kalemi, la localité de Nyunzu est désormais classée parmi les zones nettoyées, mais le travail reste encore pour le territoire de Kabalo. Le point sur la situation avec François-Xavier Mibé.
287 surfaces avec engins non explosés, 131 zones avec mines et 193 victimes enregistrées. Voilà des chiffres que publie aujourd'hui l'ONG danoise Dan Church Aid, chargée du déminage au nord Katanga. Ces chiffres sont les résultats d'une dernière enquête menée au cours de l'année 2005 dans ce qui avait été le théâtre d'affrontements entre les armées belligérantes. Ces chiffres révèlent encore que de tous les territoires minés, Kabalo et Nyunzu ont été les plus souillés. Selon l'ONG Dan Church Aid, 30% des victimes enregistrées sont des femmes et 19 d'entre elles des enfants. Les terrains les plus minés restent pour la plupart des cas des surfaces de valeur comme des champs et des quartiers populaires, ce qui constitue un sérieux handicap pour les populations paysannes. L'ONG Dan Church Aid vient de déployer deux nouvelles équipes de démineurs sur Nyunzu et Kabalo pour accélérer le programme du déminage. Ce programme est accompagné d'une éducation sur les risques de mines avec l'objectif de réduire le nombre de victimes. Pour cette ONG, l'appui aux victimes est avant tout une affaire du gouvernement congolais. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemi.
Toujours à ce sujet, sachez que les mines antipersonnelles ont déjà fait près de 2000 victimes au Congo et notamment au Sud Kivu. Dernier incident date dans la province, le 11 février, un camion civil transportant des marchandises a sauté sur une mine dans le territoire de Mwenga, faisant plusieurs blessés. Selon Pierre Destara, coordonnateur provincial de la lutte anti-mines des Nations Unies, au moins 25% des victimes de mines antipersonnelles et d'autres engins dangereux dans le pays sont au Sud Kivu. Pierre Destara est au micro de Serge Maï.
La plupart des accidents qui ont lieu, ce sont avec ces fameux UXO, c'est-à-dire les grenades, les mortiers, les roquettes qui traînent sur le terrain, que les gens ramassent, amènent chez eux, essayent d'ouvrir, et à un moment, ça explose. Alors pour l'instant, les chiffres que j'ai donnent pour la République démocratique du Congo, en gros, 2000 victimes. Pas forcément 2000 morts, mais 2000 victimes. Sur ces 2000 victimes, le Sud Kivu en a en gros dans les 400, ce qui représente à peu près 25% des victimes au niveau de la RDC. Il y a sûrement des endroits où il y a des victimes, mais qui n'ont pas encore été recensées. Nous progressons dans les enquêtes sur le terrain, et au fur et à mesure des enquêtes, les données nous permettent d'alimenter une base qui se trouve à Kinshasa.
Sachez que la République démocratique du Congo a ratifié en 2001 le traité d'Ottawa sur l'interdiction de ces mines. Province de l'Équateur de nouveau, l'université de Mbandaka est fermée et le porte-parole investi par des étudiants est renvoyé. La décision a été prise hier lundi à l'issue de la réunion extraordinaire élargie du comité provincial de sécurité. Selon les membres de cet organe, cette mesure fait suite à une vague de manifestations organisée dernièrement par les étudiants de l'UNIMBA dans la ville. Jean-Michel Louboulamo-Polo pour plus de détails.
Nouvelle altercation entre les éléments du groupe mobile d'intervention et les étudiants de l'université de Mbandaka. Pour rappel, trois manifestations ont été organisées en moins d'une semaine dans les rues de Mbandaka par les camarades hauts de l'UNIMBA. Ils dénonçaient de mauvaises conditions d'études auxquelles ils sont soumis. Pendant ces manifestations, ils ont destitué l'ancien comité étudiantin et ont investi James Mumbenza Science Tenant comme le nouveau porte-parole. 48 heures après son investiture, le nouveau porte-parole sera renvoyé par le comité de gestion de l'UNIMBA. L'étudiant renvoyé a tenté en vain de présenter ses excuses aux autorités académiques. Devant cette intransigeance, les étudiants ont décidé de faire entendre leur voix par la force. Mais ils n'avaient pas compté avec la police qui a su maîtriser la situation. Le comité provincial de sécurité s'est réuni en urgence pour examiner la question. Deux importantes décisions ont été prises. La fermeture de l'université de Mbandaka et l'entérinement du renvoi du porte-parole. Mbandaka, Jean-Michel Iboulamopo. Pour le Radio Kapi.
Direction Katanga, avant de boucler ce journal, la ville de Dilolo est à nouveau approvisionnée en produits manufacturés et pharmaceutiques de première nécessité. Cela grâce à la reprise du trafic ferroviaire entre les grandes agglomérations du Katanga et la ville de Dilolo. Comme conséquence, les prix de ces produits commencent à baisser. Les détails avec Madeleine Waila.
C'est la semaine dernière que le premier train est arrivé dans le chef-lieu du district de Lualaba après deux interruptions. Dans les wagons, indique le responsable de la Fédération des entrepreneurs.